Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Davy.
Bonjour et merci de m'accueillir à nouveau. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle année.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de le Landing Zone Multicloud, c'est-à-dire des notions justement où on doit placer nos différents éléments et qu'est-ce que ça sert et pourquoi ça, c'est aussi essentiel que ça dans le développement des solutions infonumériques. Je vais te laisser commencer.
Eh bien, merci effectivement d'introduire ce sujet. C'est un sujet que je retrouve moi très très souvent en conseil chez les clients puisque il n'y a pas 50 façons de bien faire quand on rentre dans l'aventure du cloud. Et c'est souvent une contrainte, plutôt une réalité existentielle de toute architecture, c'est qu'elle existe dans un pays, sur un territoire, avec des règles à respecter. C'est-à-dire que si demain, tu viens en France et tu veux créer une boulangerie, tu peux pas t'amuser à laisser tomber la farine par terre, à la ramasser, à faire ton pain avec. Il y a des règles d'hygiène, il y a des règles contre les incendies, il y a des règles contre les fraudes, etc. On a plein de règles à respecter partout où on est, partout, tout ce qu'on fait. Si tu construis une maison, c'est pareil. Ben, c'est la même chose quand on a un business, quand on a une entreprise, une affaire, et qu'on a des moyens techniques à mettre en œuvre. Il existe beaucoup de règles, beaucoup de des gens qui nous écoutent doivent déjà connaître, sont familiers, comme la règle des données privées, par exemple en Europe, j'ai RGPD. Des règles comme SecNumCab en Europe aussi et en France pour la donnée numérique. Donc on a plein de règles qui nous sont imposées. On a des règles si on doit faire des paiements en carte de crédit, etc. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre dans un business, dans une activité d'affaires qui est liée à ces règles, on n'a pas le droit de les ignorer. On peut essayer, mais on ne tiendra pas très longtemps. Et d'une part, alors on ne sera pas crédible de la part de nos partenaires puisqu'on dira si t'es pas certifié, alors je peux pas te faire confiance, on ne peut pas travailler ensemble. Et ensuite, il y a fort à parier que ce soit même pas légal d'exercer. Et il y a un certain nombre de règles qui sont là pour assurer quoi finalement? Un cadre de qualité qui vise à être efficace et dire je vais faire un certain nombre de tâches, je vais traquer quelles sont mes obligations, je vais les regrouper, je vais mettre en œuvre une organisation humaine qui va les identifier, qui va mettre les moyens techniques en œuvre, des façons de contrôler ce qui a lieu et de rendre des comptes, bien sûr, puisqu'il faut être toujours dans ce cadre-là, auditable, c'est-à-dire être capable de prouver aux gens qui vont donner l'accréditation qu'on a bien fait le travail et qu'on continue à le bien faire. Donc, quand on est dans un cloud privé et qu'on a fait ça toute sa vie et qu'on a tout géré à sa façon, le jour où on rentre dans un cloud public, les choses changent. Et donc, l'entrée du cloud public, souvent, moi, ce que je vois, c'est que c'est un événement, si tu veux, un peu joyeux, c'est vrai, hein. Et j'ai pas un client qui va dans le cloud en faisant la gueule. Je lui dis, sinon, arrête, le fais pas, c'est pas grave. T'as peut-être pas envie, c'est pas grave, ça arrive. Ok. Mais la plupart des clients moi, que je croise, ils sont plutôt très contents d'aller dans le cloud. Ils voient ça comme une nouvelle opportunité, il y a plein de promesses, il y a plein d'autres. C'est vrai qu'il y a il y a un gros potentiel. Et moi, mes projets cloud, à chaque fois, je suis très content aussi, parce qu'effectivement, je vois un très gros potentiel. Mais le risque, c'est qu'avec enthousiasme, on aille beaucoup trop vite. Et donc, c'est-à-dire qu'on commence à transposer nos applications, nos façons de faire, sans avoir pensé à emmener le cadre qui va avec. Et donc, c'est un sujet qui est devenu prédominant depuis, je dirais, 5 ans maintenant, où, on va dire, la phase de découverte, de montée, de succès des clouds s'est faite. Et il y a de plus en plus de gros clients qui sont arrivés disant, attends, je crois que t'as pas compris, mais moi, je gère des milliards de dollars par an et j'ai besoin d'un cadre très, très, très respectueux de mes règles. Sinon, il est hors de question que je puisse exercer mon activité. Et donc, il faut que le fournisseur de cloud m'aide à construire ce cadre ou à le transposer. Et si plus est, relativement rapidement pour qu'on puisse ne pas être freiné dans l'aventure du cloud. Je rappelle que nos amis, les fournisseurs de cloud, que ce soit Azure, Google ou Microsoft, Amazon, aiment bien nous pousser à y aller le plus vite possible. Ah oui, je rappelle que l'objectif, c'est qu'on soit facturé le plus vite possible. C'est de bonne guerre, c'est comme ça. Mais on peut être facturé en faisant bien les choses. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir prévoir ce cadre-là. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui avec les landing zones. C'est comment préparer, on va dire, une espèce de zone d'accueil rassurante dans laquelle on va pouvoir poser un cadre qui est le nôtre, qui est compris, qui est cadré, désolé pour la redondance, qui est donc périmétré, qui est réglementé et qui permet de dire à l'intérieur de ça, j'ai des règles, j'ai des façons de faire, qui permettent que mes équipes maintenant puissent avoir une certaine forme d'autonomie, tout en assurant que moi, j'ai pas fait de grosses bêtises et je sois pas en dehors de mon cadre légal. Et alors, il se trouve que les Canadiens ont un excellent modèle avec ça, avec le programme qui s'appelle ASEA pour AWS Secure Environment Accelerator. Pour la faire très courte, votre gouvernement canadien a dit « Ok, révolution digitale, on va faire envoyer tous les organismes nationaux et fédéraux aux régionaux dans le cloud. » Il y en a marre de payer des data centers pour rien. Le cloud fonctionne. On voit que nos voisins du sud ont fait le voyage en allant chez Amazon et chez Azure. Ils ont le GovCloud. Donc, ça doit être possible. Donc, toc, 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 Amazon. Salut, on arrive chez vous. On a envie de s'installer. Qu'est-ce que vous pouvez faire nous aider? Voilà la documentation, les formations. Et là, votre gouvernement, il a dit, non, attendez, les gars. On n'a pas le temps de passer 3 ans à se former pour ensuite commencer les projets. On a un objectif de migrer assez vite. Vous avez un savoir-faire qui peut nous permettre de mettre en place ensemble cette définition d'un cadre qui, somme toute, peut être vu de façon très basique, finalement, avec des règles très, très simples, hein, des règles de chiffrement, d'isolation, vous voyez, de circulation, qui sont, quand on fait de l'architecture, on se dit, bah ouais, mais c'est un truc qu'on voit chez tout le monde, c'est tout le temps les mêmes. C'est vrai, c'est conforme. Et donc, ce qui donne l'idée que ça pourrait finalement être cadré assez vite, parce que c'est quelque chose de très commun. Et donc, si Amazon vous aide à faire ça, bah, ils peuvent en tirer parti ailleurs. Et il se trouve, personnellement, que ce programme ISOA, moi, quand je l'ai découvert, je l'ai transposé tout de suite en Europe. Parce qu'à 5% près du contenu, c'est les mêmes règles qu'on applique en Europe, le Canada, les États-Unis, le Japon. Donc, on a quasiment tous les mêmes règles de sécurité. Donc, le programme ISOA, ça a été votre gouvernement a dit à Amazon, soit vous nous accompagnez, soit on s'en va. Et a dit, maintenant, pour l'accompagnement, c'est vous nous aider à fournir un outillage qu'on puisse délivrer à nos organismes pour pouvoir déployer les architectures avec le respect, alors en l'occurrence pour SEA, c'est de 91 points de sécurité documentés individuellement, qui sont des normes obligatoires pour toutes institutions canadiennes. 91 règles de fonctionnement d'organisation que vous ne pouvez pas déroger et qui sont là pour dire vous avez respecté l'engagement minimum qu'on attend. Et ça, c'est génial, parce qu'à partir de là, ça veut dire que si demain tu dis je vais voir telle institution qui n'a pas encore migré, elle va être en panique, elle va dire « Attends, faut tout changer, faut tout refaire. » Non, 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 moi je te rassure, c'est comme une maison en kit. On arrive, tout est déjà préassemblé, et l'idée, c'est que ça vous rassure. On va vous aider à créer les fondations propres de la maison, à créer l'évacuation d'eau, à l'arrivée d'électricité. Tout va être aux normes. Et ce cadre va vous permettre ensuite, évidemment, à l'intérieur des pièces, de définir qu'est-ce que vous mettez comme fenêtre, quelle est la couleur du papier peint que vous voulez mettre au mur, qui sont plus du détail. C'est moins important de discuter de la couleur du papier peint que de la solidité du mur. Et nous, ce qu'on veut, là, c'est gagner du temps sur la solidité des murs, leur organisation. Donc, c'est ça le programme ISOA. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller voir. Il y a un GitHub complet. Mais qu'il ne s'agit pas juste de préconisation. Il s'agit vraiment d'un outil d'automatisation complet, clé en main, que l'on peut ensuite s'approprier. Alors, il y a des templates, CloudFormation, pour ceux qui nous ont déjà écoutés. CloudFormation, c'est l'outil d'automatisation d'Amazon. Donc, il y a déjà des templates de 2500 lignes qui contiennent plein d'éléments. Tout est documenté, expliqué. Et puis ensuite, alors évidemment, ça prend un certain temps. On va les voir, on va les personnaliser. Attention par contre, quand on met les mains dedans, qu'on personnalise, vous pouvez rajouter les règles, vous pouvez pas en enlever. Parce que les 91 points de réglementation, ils vous sont imposés par votre gouvernement pour être en adéquation avec les règles que eux ont estimées comme étant le minimum de sécurité à maintenir pour nos architectures. Je prends souvent un autre parallèle pour comprendre en fait l'utilité de faire ça. C'est ce que j'appelle les camps de base. Un camp de base, c'est quand vous arrivez dans une expédition militaire sur un territoire de guerre, ou une expédition même scientifique dans un territoire hostile, ou pour ceux qui font du jeu vidéo, quand vous arrivez avec votre petite troupe localement à un territoire hostile, vous allez créer un camp de base dans lequel vous allez mettre votre headquarter, donc une espèce de tente avec les chefs qui sont dedans, une station de communication, une station médicale, un endroit où les gens peuvent dormir en sécurité, un endroit où on entrepose des munitions, un endroit où on peut manger, un endroit où il y a des latrines, un périmètre de sécurité. Et les militaires sont entraînés, l'armée s'entraîne à poser ce camp de base dans tout territoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage pour eux, c'est qu'ils arrivent dans le désert, dans la neige ou en pleine savane, ils vont devoir de toute façon avoir le même set, on va dire, opérationnel qui doit se poser pour leur permettre de se garantir que cette zone de sécurité est posée et qu'ils ont un certain nombre d'éléments dont ils ont toujours besoin, qui sont là, c'est garanti, il n'y a pas d'improvisation. Après, vous allez dire, ouais, mais quand ils font la guerre sur le territoire, il y a plein de trucs qui varient. Oui, mais ça, c'est après. C'est-à-dire que le camp de base, ça sert justement à avoir dans un territoire qui est hostile, dans un territoire qui est inconnu et dans lequel il peut se passer plein de choses, avoir un endroit où on sait qu'il peut se passer beaucoup moins de choses. Parce qu'en fait, on vient avec notre set de règles. C'est la même logique qu'est de dire, chez moi, quand j'arrive dans mon cloud, quand je vais faire mon cloud, qu'est-ce qu'il me faudrait que je sécurise pour pouvoir me rassurer et me sentir justement cadré? Et cette question, elle n'est pas si simple que ça à répondre, parce que, on va dire, il y a des éléments fondamentaux que tout le monde pense être communs, comme l'organisation du réseau. Certes, ok, chiffrer les données, on dit c'est des questions fondamentales, mais quel est le degré d'intervention qu'on va laisser à un développeur sur l'infrastructure d'Amazon, par exemple? Ça, c'est une discussion complète qui n'est pas fixée à l'avance. Ça dépendra de leur volonté, ça dépendra de leur capacité, ça dépendra du degré de délégation qu'on leur permet d'avoir. Est-ce que c'est d'autres personnes? Ah, par exemple, si vous écrivez un bout de code en Python, vous le mettez dans un conteneur Docker, est-ce que le développeur s'occupe que du Python ou est-ce qu'il s'occupe de Docker aussi? Ou est-ce qu'il s'occupe de Docker et de Kubernetes aussi? Oui. Et ça, c'est pas une obligation. Il y a pas de, c'est la règle, il faut faire forcément les trois en même temps. Il y a des gens qui vont dire, oh non, moi, je m'occupe du Python, le reste, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. C'est les ops qui s'occupent de ça. Il y a d'autres équipes qui vont dire, mais moi, je suis très ouvert à l'idée de tout faire, j'aime bien. Par contre, il me faut des outils qui me permettent de faire ça qu'un seul langage. Chez Amazon, ça peut être les CDK, par exemple, qui vont faire ça. Donc, ouais, on a toutes ces opportunités d'approche, d'aller réglementer. Le but, c'est de faire ensuite, de trouver l'équilibre entre la sécurité et la liberté. D'un côté, un cadre, ça me sécurise, ça me rassure. Hein, plus je cadre les choses, moins il y a d'improvisation, moins il y a d'inconnu, et plus ça me permet de me sentir à l'aise et de me rassurer. Mais vous le savez très bien, plus on met de sécurité, moins on a de liberté. Je pourrais aller jusqu'à l'état totalitaire ou policier, hein, où plus rien ne peut se faire sans le contrôle de l'autorité en vigueur, ce qui veut dire que ça empêche toute initiative, toute innovation, etc. Donc c'est l'extrême. Et à l'inverse, si on va à la liberté absolue, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle. Donnez les clés des comptes routes à tout le monde, débrouillez-vous, et Inch'Allah, advienne que pourra, que la force soit avec toi. Enfin voilà, c'est le massacre de l'architecture. Alors, les gens sont contents, hein. Moi, le premier, j'ai pas un collègue qui adore quand on lui dit, je vais te restreindre tes droits. Tout le monde aime être libre dans sa décision. Parce que c'est naturel pour l'humain d'avoir cette liberté, d'avoir la sensation d'avoir ce pouvoir. Le souci, c'est de comprendre les conséquences que ça peut avoir, y compris, tout le monde c'est pas forcément mal intentionné, mais on fait tous des erreurs. Donc, si je laisse faire des erreurs à des collègues et ces erreurs, ça peut être la destruction des architectures des voisins, ça m'intéresse pas. Donc, il faut que je puisse, moi, créer une espèce de compromis entre j'ai besoin d'un cadre de sécurité parce que je dois respecter des règles qui me sont posées par mon tier, parce que je dois respecter des lois qui sont posées par le territoire, le pays où je suis, et en même temps, le besoin aussi que mes équipes puissent avoir une capacité d'innovation, de délégation dans les environnements. Je fais un autre comparatif un peu plus simpliste, mais c'est comme quand vous emmenez vos enfants au parc à jeux. C'est-à-dire qu'en fait, parc à jeux, c'est ça. C'est un terrain de base qui a été cadré, dans lequel vous dites aux enfants, là-dedans, tu peux te balader comme tu vas, mais alors tu franchis pas la porte, là, tu sors pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est sécurisé. Et comme c'est sécurisé, on a la liberté d'agir dans le cadre qui nous est donné, ou qu'on a construit, ou qu'on a trouvé, qui correspond à ce qu'on a besoin.
Ouais, et puis j'aime bien le point que tu t'amènes au niveau de la liberté. Les développeurs sont ceux qui vont seulement se plaindre le plus du fait que justement on les contraint dans la chose. Cela étant dit, j'aime bien l'exemple en art. En art, les contraintes sont source de création. Donc, si on est sans contraintes en art, on n'est pas capable de rien créer parce que c'est trop vaste. Donc, c'est déjà là, faut le voir différemment. Puis l'autre volet, c'est que les développeurs justement ne maîtrisent pas ou rarement le volet de zone de déflagration. J'aime bien ton exemple militaire, c'est justement cet élément-là. C'est à quel point, quand que ça explose, est-ce que tu veux entraîner l'ensemble de ton bloc ou tu veux limiter justement, à cause de contraintes, ton explosion est beaucoup plus limitée, beaucoup moins dommageable pour l'organisation. Et c'est là qu'il faut mesurer justement puis la règle de l'organisation. Comme tu mentionnais, au Canada, on a défini les règles, puis voici ce que vous devez faire. Vos zones de déflagration ne doivent pas être plus grosses que X. Parce qu'on a jugé que c'était la meilleure façon selon nos règles. Là, ensuite, on peut restreindre encore plus les zones de déflagration à des plus petits composants. Puis c'est important justement de l'amener dans cette structure-là et de ne pas l'amener justement, ou comme ton exemple de parc, c'est pas des contraintes qui empêchent de travailler, c'est des contraintes créatrices. Je préfère les voir comme ça.
La contrainte qui m'oblige à garder mes tuyaux en bon état pour pas que l'eau coule, c'est pour pas que j'en perde et pas que ça rentre chez les voisins. Donc effectivement, quand on voit que maintenir une infrastructure de plomberie chez soi qui est fonctionnelle, ça paraît logique, oui. Mais c'est la même chose, comme tu dis, tout à fait. Il faut que le cadre soit établi, non pas pour empêcher l'action des gens dans leur métier légitime, mais pour effectivement leur permettre d'avoir un endroit où, à l'intérieur de ce cadre posé qui ne devraient pas les freiner, ils aient l'amplitude effectivement de travailler. Et comme tu faisais référence à la zone de déflagration, le blast radius pour les anglophones, donc le blast radius, la zone d'impact, c'est c'est de définir quand on est dans une structure ou dans un système, quelle est l'amplitude totale d'impact qui peut avoir lieu à l'intérieur de ce système. Par exemple, quand vous avez un compte AWS ou un compte Azure, et que vous avez les plus hautes permissions, la zone d'impact, le blast radius, elle est totale. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une erreur au plus haut niveau peut détruire l'intégralité. Même quelqu'un qui pourrait avoir un rôle normalement plus bas. Et c'est pour ça qu'on doit cadrer et qu'on passe notre temps à définir des segmentations, des ségrégations, des isolations. C'est un sujet qu'on avait vu déjà hein, dans les discussions qu'on a eues sur la sécurité des architectures réseau, des données, etc. L'isolation segmentée la compartitionnement des éléments, comme dans un sous-marin. Hein. Dans un sous-marin, on n'a pas plusieurs portes pour maintenir l'intimité des marins. Hein. Des portes, parce que s'il y a l'eau qui rentre, il faut qu'on puisse tout de suite cloisonner la fuite. Et l'effet de la fuite, la zone d'impact, a une zone beaucoup plus restreinte que l'intégralité et ne pas prendre de risque. Donc, pour qu'on ait cet enjeu, effectivement, entre laisser la liberté à nos opérationnels d'opérer et garantir le cadre, il faut qu'on trouve un juste milieu. Et j'aime bien dire, pour que ça soit bien vu, il faut que ça ait lieu sans que les personnes qui le subissent s'en rendent compte. Donc, il faut adjoindre à ça l'idée qu'il va y avoir une automatisation de la définition de tout ça, enfin, pas de la définition, pardon, du déploiement et de l'usage. Donc, nous, on va avoir une partie de nos équipes qui vont s'occuper dans un projet, comme moi, par exemple, en tant qu'architecte, de cadrer ça dès le début avec le client, souvent sans les équipes de développement, d'ailleurs. Au début, c'est un besoin, on va dire, vraiment d'infrastructure pure, de segmentation, d'organisation. Donc, on passe beaucoup de temps à observer ce que le client nous dit de comment il fonctionne, de quelles sont ses obligations, mais quelles sont aussi ses routines aujourd'hui, comment il travaille, où sont ses outils, et qu'est-ce qu'il souhaiterait à terme dans le cloud. Et ensuite, on va aller effectivement chercher l'isolation la plus fonctionnelle. Alors, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec un client où on a découpé, par exemple, le nombre de comptes AWS ou de souscriptions Azure. Donc l'idée, c'est combien on va mettre de comptes séparés pour permettre d'isoler les bonnes, le bon niveau de responsabilité et éviter justement les épanchements. Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec une quinzaine de comptes. Je précise que le client est tout petit, c'est une vingtaine de personnes, ils ont une application principalement. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas dans ce que je viens de faire. C'est-à-dire qu'en fait, on a trop segmenté au bout d'un moment. Et donc, on peut avoir à faire ce travail, d'essayer de trouver, d'identifier quel va être le bon degré de séparation et d'isolation. Et d'utiliser tout le champ des possibles de l'isolation. Alors, bien sûr, hein, entre comptes route différents ou entre souscriptions Azure différentes, c'est déjà un très, très gros niveau d'isolation. Mais à l'intérieur même, souvenez-vous, on a eu dans un compte Amazon, je peux faire des VPC, des réseaux différents. Je peux avoir des questions de permission. Donc après, je vais peut-être avoir des éléments plus légitimes à faire vivre au même endroit et trouver un autre niveau de ségrégation. Donc, c'est à moi, en tant qu'architecte ensuite, de faire le boulot, d'aller chercher tous les outils qui peuvent permettre de faire de l'isolation et trouver comment on va pouvoir gérer. Alors, c'est le boulot le plus complexe, hein, qui est l'identification de tout ce qui va rentrer dans ce cadre. La bonne nouvelle pour nous, c'est le cas d'ASEA, c'est que votre gouvernement s'est pas embêté, ils ont pas inventé les règles, ils les ont pris. Il y a des normes, il y a des standards qui existent, on s'y réfère, on fait le tour, on les analyse. Est-ce qu'ils correspondent à notre cadre d'usage et à ce qu'on voudrait comme niveau de sécurité de cadrage? Oui. Alors, on prend cette norme telle quelle et on l'impose comme tout le monde. Soit on l'agrémente et on en fait un nouveau standard national, soit on reprend une norme nord-américaine comme NIST, par exemple, et on dit, ben, on fait, vous voyez le standard NIST 800-88, ok, ben, vous l'appliquez. Et vous faites les mêmes rapports et on décidera vous êtes validé quand vous avez vérifié ce niveau-là. Et donc, l'avantage, en fait, c'est que ça nous fait des cahiers des charges à respecter qu'on n'a plus qu'à venir, alors plus qu'à, qu'il nous faudra donc mettre en place et appliquer. Et donc ensuite, le petit jeu de l'architecte, c'est quoi? C'est de prendre cette norme-là, alors oui, ça peut être long à faire, hein, et de tracer en face tous les moyens à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que le programme ASEA est intéressant, parce qu'en fait, votre gouvernement a poussé Amazon à faire ce travail-là, parce que mais vous ne allez pas le faire qu'une fois pour nous, vous allez le faire pour toutes nos institutions et pour d'autres pays aussi, donc ça va vous servir. Pour l'anecdote, le petit truc très drôle, c'est que quand ils ont sorti le programme ASEA en public, quelques mois après, Azure dire « Ah, au fait, on a parlé avec le gouvernement canadien, on en a fait un aussi. » Et tant mieux, parce que ça nous aide à réglementer. Et je disais tout à l'heure, ce travail d'identification, enfin, l'idée, c'était que j'ai beaucoup de clients qui rentrent en cloud avec l'enthousiasme, qui veulent y aller très vite. Et je comprends. Je comprends qu'on a envie, qu'on s'impatiente. Et ce travail que je suis en train de vous proposer de faire, j'ai plein de clients qui ont du mal à le vivre parce que ça nous demande beaucoup de temps de discussion. Et souvent, j'ai la sensation qu'on n'avance pas. Et j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps avec un client où un administrateur m'a dit, mais j'ai l'impression qu'on a déjà fait tout ça, qu'on a déjà discuté de ça. Je suis non, on soulève chaque sujet. On le discute, on regarde les options qui sont les vôtres, vous devez faire des choix, puis ensuite on les écrit. Et on se retrouve avec un document d'architecture qui fait 60 pages. En quelques jours. Par contre, tout est dedans. Et l'avantage d'avoir fait ce travail, je dis, c'est que quand tu vas vouloir maintenant mettre en place cette norme et la faire automatiquement, le fait qu'on ait rempli des documents d'architecture de façon très précise et d'avoir tout posé à plat, fait qu'on saura exactement ce qu'on doit faire. On va aller plus loin. Ça fait qu'on va exactement savoir quoi mettre dans les documents d'automatisation. Il n'y en aura plus qu'à copier-coller les notions qu'on aura mis dans notre matrice et s'y référer pour déployer. Et on va avoir besoin ensuite d'outils pour ça. Alors, vous me connaissez maintenant, ma spécialité, moi, c'est Amazon. Donc, chez AWS, il y a un outil génial que j'adore qui s'appelle Control Tower pour ça. Et Control Tower, chez AWS, c'est fait pour ça. C'est fait pour la mise en place et le pilotage des landing zones, à la fois pour les définir, mais aussi pour les déployer. Et enfin, pour les faire évoluer en continuité. Parce que si vous me livrez un truc parfaitement cadré le premier jour et qu'au bout d'une semaine, j'ai fait n'importe quoi dedans, il y a de fortes chances que ça marche plus. Donc, l'idée, c'est bien sûr de s'assurer que le cadre qui est posé est respecté en usage, dans sa continuité, peu importe ce qui s'y passe, peu importe les nouveaux projets qu'on accueille. Et qui plus est, vous savez quoi? Comme je dis toujours, ce que vous avez fait aujourd'hui sera déjà plus vrai demain. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre dedans va changer, les règles qui vont vous être imposées peuvent évoluer aussi. Demain, la réglementation peut changer, elle peut être rendue plus drastique. Vous pouvez signer des accords avec un autre pays qui vous oblige à opérer d'autres réglementations. On a plein de raisons, en fait, et la sécurité a tendance à se renforcer de plus en plus d'année en année, et pas l'inverse. J'ai pas de cas d'usage, je dis on est moins sécurisé maintenant. C'est plutôt l'inverse, on a tendance à renforcer de plus en plus, donc à créer des cadres de plus en plus statiques. Ça veut dire que quand on fait ça, vraiment, on prépare le fait de le faire systématiquement pour tous les déploiements. Le cas du client là que je suis actuellement, il a une stratégie. Son outil principal, il est partagé par plusieurs clients en même temps aujourd'hui. Mais il m'a dit, ma stratégie, c'est que si j'ai un gros client, ce gros client aura un contrat spécial et il aura une infrastructure dédiée. Et donc, l'intérêt d'avoir cadré ces landing zones avec des outils comme Control Tower, des templates, c'est que le jour où il a cette demande du client, on clique sur un bouton, on met les variables dont on a besoin, et ça nous déploie le cadre à l'identique des autres, en conformité. C'est pas juste ça déploie une copie de ce qui existe déjà, c'est que ça me déploie le cadre avec la même qualité, avec les mêmes règles, avec les mêmes systèmes de contrôle, avec la possibilité d'avoir le même niveau de satisfaction, y compris pour quelque chose qui viendrait de sortir de terre comme ça, qui viendrait d'être créé. Donc moi, ça me rassure, et ça le rassure aussi. Parce que ça veut dire que si demain il a des opportunités d'affaires qui arrivent, il peut les adresser tout en étant sûr de se valider. Il y a une autre valeur à ça. Et ça, ce client en fait partie, j'en ai eu d'autres il n'y a pas longtemps qui ont eu le cas. C'est des clients qui souvent n'ont pas fait beaucoup de documentation jusqu'ici. Je vais pas les blâmer, 90% de mes clients font pas cette documentation. Le souci, c'est que quand ils veulent faire des audits parce qu'ils veulent avoir des accréditations, ils sont embêtés parce qu'ils n'ont pas une seule documentation à présenter. Et donc ils peuvent pas faire des audits. Donc ils peuvent pas être accrédités. Et quand votre activité professionnelle dépend d'une accréditation. Et vous pouvez pas passer l'accréditation parce que ce que vous avez fait n'est pas documenté. C'est dommage. Vous vous bloquez tout seul. Donc là, ce qu'ils voient aussi, c'est le bénéfice que si demain ils ont un audit à faire, le document d'architecture, il est là. Il est complet. Il y a tout dedans. Tout est écrit. Tout est expliqué. Quand ils accueillent des nouveaux collaborateurs ou collaboratrices qui vont gérer la partie infrastructure ou architecture, tout est documenté. Il leur dit par contre, attention, ça veut dire que dans la culture, il faut rajouter cette pratique plus courante de la documentation. Si vous changez, vous écrivez. Et pas vous le faites 6 mois après, parce que ça, c'est foutu. C'est déjà beaucoup trop tard. Et cette culture de la documentation, aujourd'hui, on l'a dans d'autres domaines qu'on a dans Cloud, comme la culture DevOps, ça en fait partie. Et donc, c'est une espèce de... Une culture, vous savez, c'est juste de la pratique que l'humain se met d'accord à faire avec les autres. Donc, à partir du moment où vous créez une culture de documentation, elle peut être transversale, elle peut être globale, et c'est une bonne pratique de laisser de la trace. Parce que ici, en l'occurrence, l'utilité, c'est pas juste pour nos équipes, mais c'est aussi pour rendre des comptes à d'autres. Si j'ai une norme et que je prétends la respecter, je vais me faire auditer. Et donc, pour se faire auditer, il faut que la documentation soit là. Si moi, elle est déjà faite, je vous avoue que ça me rassure tout de suite. C'est beaucoup moins de boulot à faire. Si je dois tout faire à l'arrache la nuit d'avant, j'ai connu ça chez les clients. Les mecs qui tentent de vous créer la documentation de 3 ans de fonctionnement en une nuit. C'est du vécu. Hein. J'ai des clients dont je ne tairai le nom, mais je suis pas resté longtemps.
Ouais, non, j'en ai des cas comme ça où tout a été fait à la volée sans justement ne pas prendre le temps de... Et ensuite, c'est de redocumenter ce qui a été fait. C'est une douleur qui est assez extrême. Puis à la limite, c'est dans la mesure où on respecte la notion que les infrastructures as a code, c'est dans la mesure où tout ce qui est mis en place est dans du code. Donc, normalement, on devrait suivre la même chaîne d'approbation que du code. Et une des gates d'approbation devrait être l'approbation de la documentation. Donc, on ne peut pas m'en lancer. On n'autorise pas la mise en production d'un changement tant que la documentation, ceci n'est pas correctement faite. Donc, on se place des gates administratives, justement, qui vont peut-être froisser certaines personnes, mais minimalement vont garantir à terme que toutes les activités qui doivent être faites sont faites.
Toute activité qu'on génère dans une entreprise, dans une structure ou système, à moins d'être tout seul, et encore même tout seul, vous savez quoi, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, ça m'est déjà arrivé de regretter de ne pas avoir pris des notes un jour sur un truc parce qu'on vient trois mois après et on a oublié ce qu'on devait faire, ce qu'on était censé dire. Donc, on a une mémoire qui est efficace, c'est-à-dire qu'elle se vide quand il y a des trucs inutiles. Donc, il faut qu'on documente, ne serait-ce que pour ça, parce qu'on ne sait pas forcément toujours tout ce qu'on a fait, parce qu'on a autre chose à faire. Des fois, vous savez, on travaille pendant plusieurs semaines sur un projet, donc on est à fond dedans, et puis il suffit d'une semaine à faire autre chose pour vraiment perdre la moitié des choses, et vous ne savez plus, en fait. Et donc, cette documentation, elle a cette valeur-là aussi. C'est que notre espace mémoire, il est important.
Énorme. Puis, je vais prendre l'analogie de Johnny Mnemonic, où dans lequel il chargeait dans sa mémoire, mais il purgeait systématiquement ce qui était plus utile. Donc, il décidait ce genre de choses-là. C'est très réel. Je veux dire, pour le nombre de clients que j'ai, puis à laquelle je roule, une fois que le client est terminé, j'ai plus d'espace dans ma tête pour ce qu'il y a. Fait que tout est purgé de ce que ça. Fait que s'il me rappelle trois mois plus tard, ouais, telle affaire qui s'est passée. Si c'est pas documenté, je suis foutu parce que c'est plus dans ma mémoire. Je l'ai purgé parce que j'ai plus d'espace pour ça. Faut que j'ai remonté en mémoire d'autres choses pour pouvoir traiter mes clients actifs.
Et pour chaque projet qu'on va créer, pour le coup, ben, on voit le bénéfice à l'oreille de ce qu'on vient de dire. Le bénéfice d'avoir cadré ces landing zones, de les avoir automatisées, c'est qu'on va avoir, en fait, il n'y a pas de devinette. Un nouveau projet arrive, on ne va pas se retrouver autour d'une table pour dire « Alors, rappelle-moi ce qu'il faut. » Non. En fait, on va déjà cadrer tout ça, on va le définir, on va dire, comme des fondamentaux. Et on peut définir plusieurs niveaux de fondamentaux, c'est-à-dire, on va dire, les plus communs de tous les communs que tout le monde ont, et puis on va faire ensuite, selon les cadres d'utilisation ou les projets, ou si c'est du cycle de vie de développement, de test ou de QA ou de prod, on va définir des règles peut-être supplémentaires. La méthode, plutôt que le but, ce sera évidemment de pouvoir cadrer tous les cadres d'usage et de pouvoir être sûr d'avoir la trace de tout. La méthode à exploiter ensuite, à employer, c'est de faire des beaux diagrammes. Effectivement, on passe beaucoup de temps à faire des schémas pour dire qu'est-ce qui tombe dans quoi, qu'est-ce qui fait partie des fondamentaux que je veux identifier constamment et qui est important pour moi, et ensuite, qu'est-ce qui fait partie de la liberté d'exécution. Donc, c'est aussi tout un enjeu de... quelle est la charge que je veux déléguer aux autres? Vous savez, en animant des formations Amazon, j'ai toujours, moi, mon objectif n'est pas de faire des experts d'Amazon dans chaque formation. Le but, c'est de permettre aux gens de pouvoir embrasser la technologie, se l'approprier et essayer d'envisager d'en faire quelque chose pour eux. Mais l'objectif, c'est pas que tout le monde devienne un expert d'AWS ou d'Azure dès le lendemain. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que les collègues n'ont pas forcément envie d'aller faire du cloud formation. Ils n'ont peut-être pas envie d'aller faire des VPC. Ils ont peut-être envie de dire, j'ai un nouveau projet, est-ce qu'on n'aurait pas routiné une petite recette déjà toute prête qui fait que quand j'appuie sur un bouton, je mets les trois tags dont j'ai besoin dans mon projet et boum, j'ai mon bac à sable qui est déposé. C'est ça l'idée aussi des landing zones. C'est l'idée d'aider les collaborateurs et collaboratrices à pouvoir vivre leur vie dans leur métier sans forcément devenir des experts. Parce que, évidemment, que la partie cloud en elle-même, elle peut prendre beaucoup de place. Alors moi, c'est ma spécialité, donc tant mieux, ça me fait du boulot. Mais je vois l'impact que ça a chez les clients qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. C'est monumental. C'est beaucoup plus gros que ce qu'ils faisaient avant avec leur infra VMware, leur serveur Citrix chez eux. C'est beaucoup plus gros que ça. C'est beaucoup plus complexe à gérer dans la mesure où c'est rarement des infras statiques. Quand tu branches des switches Cisco qui sont paramétrés, bah entre nous, tu vas pas les débrancher tous les trois mois pour les changer, pour les refaire. Par contre, une infrastructure déployée en API et chez Amazon, on peut la refaire 30 fois par jour. Je sais pas s'il y a une utilité, mais techniquement, c'est possible. Donc, on se retrouve avec une fréquence de changement qui fait que c'est tentant, c'est possible, Mais faudrait-il encore qu'on cadre, qu'il n'y ait pas de débordement dans ces changements, que ça ne devienne pas n'importe quoi, et qu'on puisse toujours s'assurer que les normes minimum soient toujours sécurisées. Donc, ça veut dire qu'on va identifier, par exemple, des séparations de responsabilités avec la création de comptes. Ça va être la AWS Organization, par exemple, chez Amazon qui va faire ça. On va peut-être avoir besoin de tags pour identifier les ressources, des tags même transversaux. Donc, il existera aussi des services qui sont transversaux à plusieurs accounts pour pouvoir assurer justement cette normalisation de façon transversale. On aura bien sûr besoin de segmentation réseau, donc on identifiera souvent les zones réseau, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, par où ça circule. Donc là, on fait des beaux diagrammes de flux réseau avec lesquels on dit quels sont les segments dans lesquels on est, on passe de quoi à quoi, quels sont les systèmes de contrôle qu'on va mettre en place, quels sont les éléments dont on a besoin, et y compris tout ce qui est en bordure. Donc si j'ai besoin d'un WAF, si j'ai besoin d'un CDN, si j'ai besoin de résolution publique DNS, si j'ai besoin de monter des VPN ou des routes express ou des direct connect, tout ça sera identifié dedans. Les façons dont on va présenter aussi l'extérieur d'Amazon ou de Cloud, avec des API Gateway, avec un front, des choses comme ça. On va aussi pouvoir mettre en place des systèmes de contrôle de choses qui nous appartiennent et qui ne sont pas forcément celles d'Amazon. Là, je vais faire référence, par exemple, à un service comme AWS Config. AWS Config, hein, c'est un service d'inventaire qui permet d'aller voir les ressources qu'on a créées. Vos VM, les disques durs, les security groups qui sont là. Donc, c'est un service qui permet de faire l'inventaire tout de suite, mais aussi de traquer les changements. Ah, tiens, quelqu'un m'a changé une règle du firewall. Ça marche plus. Bon, ben là, faut que je sache. Et l'intérêt de détecter, c'est quoi? C'est pas juste de détecter. Parce que bon, détecter en soi, c'est bien. Mais s'il se passe rien de plus, ça m'arrange pas forcément. C'est de faire de la mise en rémédiation systématique. C'est plus conforme. Faisons de la mise en conformité. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des scénarios dans lesquels aussi, on va pas juste définir un cadre, mais on va définir les moyens de corriger quand le cadre n'est plus conforme. Alors après, ces discussions qu'on a déjà eues, mais ça, je l'ai régulièrement avec des clients, c'est est-ce que la mise en conformité, c'est je te laisse faire une bêtise, je corrige, et je peux passer ma vie à corriger tes bêtises. Et là, c'est pas, culturellement, c'est pas très souhaitable. Ou est-ce que tu fais une bêtise, je te la laisse pas faire, t'as un gros deny, tu viens me voir, on s'explique et je t'explique comment bien faire. C'est une question culturelle. J'ai des clients qui sont fanatiques de la mise en remédiation. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à corriger les trucs mal faits sans expliquer aux gens comment bien faire. Alors qu'ils pourraient gagner tellement plus à bien faire dès le départ. Là, qu'ils sont noyés sous les notifications de correction. Donc, ils savent plus lesquelles sont importantes et critiques. Et donc, ils savent plus identifier lesquelles ils pourraient peut-être justement trianguler et corriger. AWS Config, avec les policies d'IAM, ça fait partie de ce qu'on appelle les guard raids en cloud, Control Tower. Donc, dans Control Tower, quand vous déployez toute une infrastructure, toute une structure de compte avec des rôles, des réseaux, etc., vous allez pouvoir définir que certains standards soient appliqués. Standards qui vous appartiennent. On va prendre un exemple tout bête. Moi, j'aime bien les logs. J'espère pour vous aussi. Donc, je demande à ce que les systèmes de logs dans mon cloud d'Amazon soient systématiquement mis en place. Et je rappelle que chez Amazon, la plupart des systèmes de logs ne sont pas mis en place par défaut. Pourquoi? Parce que leur destination, c'est un gros bucket S3 et ce bucket, c'est à vous de le créer. C'est pour ça. La seule raison, c'est ça. Donc, vous créez votre bucket dans chaque compte où vous centralisez ce bucket dans un compte de sécurité. Et chaque nouveau compte que vous accueillez, chaque nouveau projet, ben vous allez créer une règle qui dit CloudTrail, les logs d'Amazon, tu les renvoies à cet endroit-là. Et l'intérêt des guardrails, c'est de dire, dans les permissions IAM, il est interdit de donner la permission de modifier ces paramètres. Ça veut dire qu'en fait, vous créez une règle tellement stricte que vous êtes sûr à 100% ici que personne ne peut tricher avec cette règle. Parce que des fois, on a besoin de déléguer, on a besoin de laisser du pouvoir aux autres. Donc, ça veut dire que si on adresse, comme on disait tout à l'heure, on laissait à ma développeur, à mes lead dev, la possibilité de modifier les choses, c'est bien. Parfois, j'ai même besoin de leur laisser des policies IAM, donc les permissions, de gérer les permissions pour les collègues, c'est légitime. Mais comment je fais pour être sûr d'avoir un plafond qui affranchit ça, pour éviter qu'ils fassent certaines bêtises? Ça, c'est ce qu'on appelle, alors en l'occurrence, c'est plus de l'IAM, ça s'appelle des SCP, par exemple, chez Amazon. C'est les SCP, hein, c'est comme des policies IAM qu'on va mettre au niveau des organisations, et qui sont supérieures à IAM, et dans lesquelles on va pouvoir dire c'est un deny ou c'est une interdiction de mettre la permission. Alors, je sais pas si c'est clair comme notion. L'interdiction de mettre la permission, ça veut dire que même si vous mettez dans une policy IAM que vous avez le droit de le faire, ça ne marchera pas. Et donc, du point de vue de l'administrateur, du point de vue de l'architecte, du point de vue de l'ingénieur de sécurité ou du contrôleur ou de la contrôleuse, on va se retrouver avec la garantie à 100% que certaines choses n'auront jamais lieu. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me rassure beaucoup. Et donc, il y a des choses comme ça, on va dire très critique, que je veux être sûr de valider quoi qu'il arrive, et je veux même pas laisser l'opportunité de pouvoir le faire autrement. Et donc, les landing zones, ça sert à ça aussi, à dire, il y a des choses qui sont discutables, et on peut se retrouver pendant des heures à discuter de tous ces sujets. Mais il y en a certains, tu sais quoi, il y a une dizaine, la discussion, elle est même pas ouverte. Elle est même pas possible, parce que c'est trop important pour nous, et on veut pas laisser l'opportunité qu'il y ait quelqu'un qui passe, vous savez, qui trouve un trou pour aller modifier un truc et qui nous fasse sauter ça. Si j'ai un audit et que j'ai dit que j'avais tous mes logs et que j'ai garanti ça à 100% que j'aurai toujours tous mes logs, alors je m'engage à 100% d'avoir toujours tous mes logs. Et donc, je ne peux pas laisser l'opportunité qu'on puisse faire autrement. Et ça, c'est important. Donc, les landing zones, ça sert à ça aussi. À dire, il y a des règles vraiment plus fondamentales que d'autres, plus critiques que d'autres. Et on le fait, hein, quand on crée nos landing zones, on définit dans nos standards qu'est-ce qui est vraiment ultra critique, indiscutable. Qu'est-ce qui peut être contextualisé et qu'est-ce qui peut devenir même optionnel. Et donc ensuite, évidemment que l'optionnel, lui, on n'est pas obligé de le déployer par les landing zones. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, il y a des discussions à mener après sur cette espèce de membrane, cet espace entre le « je veux pas discuter de ça, c'est obligatoire » et « je comprends que ce soit une contrainte, je comprends qu'on peut pas peut-être le faire tout de suite et si on l'a pas tout de suite, c'est pas très grave, donc on peut le faire plus optionnel. » Donc il y a des espaces comme ça de variabilité qui ne rentrent pas dans les landing zones. Et c'est là où ça s'arrête. Et c'est une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec un CloudOps qui voulait faire plein de trucs. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr que ça rentre en compte dans ce cadre-là? Ça, cette partie-là, par exemple, là, c'était l'organisation des réseaux, c'est de la landing zone. Et donc, c'est intouchable. Ça veut dire que c'est pas aux développeurs de le faire. S'ils veulent modifier, ils peuvent faire une demande à l'équipe pour que ce soit intégré dans le modèle. Mais par contre, à l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. Ça me gêne pas. Du moment que le cadre qu'ils utilisent est structuré et qu'il est conforme. Donc c'est vraiment une histoire d'équilibre qui n'est pas évidente et je vous rassure, hein, c'est des choses qu'on apprend à faire sur le terme. Et en général, vos landing zones, vous avez une première approche primaire, puis ensuite vous les ajustez. Et c'est des outils, bien sûr, qu'on peut réajuster sur le temps. Et comme je disais tout à l'heure en introduction, nos normes vont changer, nos règles vont changer, nos obligations, notre exigence de qualité va changer aussi avec le temps. On va peut-être pouvoir renforcer. Comme beaucoup de clients, quand on rencontre le cloud ou l'expérience du cloud, on connaît pas encore tout de suite. Et puis à terme, on finit par connaître un peu mieux, s'approprier les outils, on commence à changer nos pratiques. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on réadapte aussi la façon dont on contrôle toutes ces pratiques. Et on peut réajuster, réadapter ce qu'on fait rentrer dans notre standard. Comme je le disais, c'est rarement en étant plus souple, c'est plutôt en étant plus rigide après.
Effectivement, c'est justement, on ramène la sécurité. Mais de toute façon, c'est dans l'air du temps de durcir nos infrastructures puis d'amener les gens justement à éviter de faire des erreurs. Puis c'est un peu ce que j'aime beaucoup du volet guardrails, landing zone, qui a été beaucoup mis de l'avant par AWS, mais adopté par tous les autres également. C'est justement, on ne force pas les développeurs à connaître des choses qui les intéressent pas. Fait qu'on leur laisse faire leur travail dans des paramètres. C'est sûr qu'ils vont avoir des frustrations parce que des fois, ils aimeraient savoir plus. Mais il demeure qu'ils devront vivre à l'intérieur de ces environnements-là, qui leur éviteront de faire des erreurs aussi. Puis pour l'organisation aussi, puis on a une vue d'ensemble. Moi, j'appelle plus ça maintenant policy as a service ou governance as a service. C'est-à-dire, on est vraiment dans un service de gestion centralisé, global, qui permet ça. Puis la landing zone est un excellent moyen pour y arriver. Justement facilement. Ça en est un. Là, on parle plus d'infrastructure plus direct. Moi, actuellement, je suis plus dans du Kubernetes. C'est qu'on a les mêmes notions de landing zone dans le Kubernetes dans lequel on applique le même genre de notions qui sont spécifiques à ces environnements-là dans lesquels on vient justement baliser correctement l'usage de ces éléments-là pour pas que tout le monde fasse n'importe quoi et déploie des pods en fou avec aucune source. Puis dans le cas, c'est encore pire avec du code dans lequel on n'a aucune confiance et ainsi de suite justement pour limiter toute la problématique.
Et comme tu dis, moi j'aime bien rappeler à mes clients que la meilleure règle de sécurité ou la meilleure mise en conformité, c'est celle qui a lieu sans que les gens s'en aperçoivent. Je vais pas demander à mes développeurs de gérer les access keys sur CloudKey parce qu'ils vont les perdre. Et c'est pas leur faute. Et la responsabilité, c'est la mienne. C'est parce que je leur ai demandé de faire un boulot qui était pas le leur. Donc quand je peux avoir un outil d'automatisation où ils ont pu à le faire, tant mieux. Si je peux venir leur taper sur l'épaule pour dire merci, t'as appliqué les best practices et qu'ils ont rien fait, qu'ils sont contents, tant mieux. Ça veut dire qu'on travaille bien. C'est-à-dire que comme tu dis, je vais délivrer de la qualité à ce service, littéralement. Je vais fabriquer un cadre consommable où je vais pas c'est pas moi qui vais les embêter à dire tu dois faire ça. Je vais leur délivrer l'environnement qui est déjà respectueux du cadre, dans lequel on aura laissé suffisamment de liberté pour qu'eux, ils aient quelque chose à faire, qu'ils ne soient pas entravés, tout en étant sûr qu'on respecte les règles. Évidemment, bien sûr que ce cadre peut être amené à bouger, être défini, c'est pas forcément toujours très simple, ça prend du temps. Et pour reprendre le cas d'Amazon, tu as dans Control Tower tu as une partie qu'on appelle l'account factory. L'account factory, ça permet carrément de préparer la modélisation de futurs comptes qui vont arriver pour des projets. Et donc l'account factory, ça veut dire que tu vas avoir une plateforme dans laquelle ton lead dev, quand il vient faire son projet qu'il a été validé, il va pouvoir choisir les paramètres qu'il veut, cliquer sur un bouton. Ça va pas faire un ticket de support que ça va déployer le truc, ça va carrément déployer l'architecture conforme. Et donc lui, il aura ses accès, et à partir de là, il sera libre à l'intérieur de son environnement pour jouer. Je finirai par un conseil à tous ceux qui nous écoutent. C'est quelque chose, effectivement, qui est plus à la mode aujourd'hui dans les discussions, c'est vrai. Amazon a fait un gros travail avec Control Tower, le jour où je l'ai vu arriver, je dis enfin, c'est génial. On en parle souvent dans les formations. Mais c'est pas un sujet évident à faire rentrer parce que d'une part, ça sous-entend qu'on ait déjà une culture cloud et qu'on comprenne les services qui sont en dessous. Et donc, c'est un peu comme l'œuf et la poule, tu sais pas forcément par lequel commencer. D'autre part, comme on disait tout à l'heure, et je reste là-dessus, c'est des autres projets qui sont très enthousiasmants. Et souvent, on a envie d'aller vite. Et faire cette partie-là, ça va pas vite. Donc, je le sais. Donc, à un moment donné, j'ai envie de conseiller à tous ceux qui nous écoutent, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, de dire, dans la vie, parfois, il y a des trucs où on peut pas réduire le temps qu'on y passe. C'est nécessaire. Par contre, le temps qu'on va consacrer à faire cette partie-là, vous ne l'ignorez pour l'instant, mais ça va vous faire gagner énormément de temps, beaucoup plus, 10, 20, 30 fois plus sur la suite. Faire l'inverse, par contre, c'est catastrophique. Et en général, ça se retourne contre vous avec des projets qui ne tiennent plus la route ou des clients qui arrêtent ou qui perdent des sommes monumentales à essayer de comprendre ce qu'ils ont fait. C'est comme si on déménageait dans un appartement qu'on connaît pas, qu'on n'a pas visité, avec des travaux. On arrive avec toutes ces affaires dans un lieu qu'on ne connaît pas, donc on ne connaît pas l'organisation et qu'en plus, il y a des travaux à faire. Donc non. Ce que vous voulez, c'est visiter les lieux, faire les travaux avant. Et quand vous arrivez, vous posez vos valises. C'est le même confort. Et je sais, j'entends bien qu'il y a des, parfois, dans les affaires, on a besoin, vous voyez, que les choses soient faites à un délai spécifique. On a besoin de faire des annonces pour impressionner les concurrents. On s'est dit qu'il fallait à telle date. Je sais que les avant-ventes des éditeurs de cloud ont tendance à vous pousser à aller le plus vite possible. D'accord. Mais est-ce que ça va vous amener un bon résultat? Non. Prenez quelques semaines de plus. Prenez quelques mois de plus. Faites-vous accompagner. Alors, peut-être par moi, ce serait pas mal, ou par d'autres, peu importe. Mais c'est l'idée. En fait, sinon, on sait ça, on peut vous faire gagner un temps fou. Et c'est tout bête, parce que je parle vraiment potentiellement de 6 mois, 1 an peut-être de gain de temps sur les étapes d'après. Il existe un goulet d'étranglement quand on migre dans le cloud, quand on n'a pas fait ça. C'est qu'on va migrer plein de trucs, on va copier dans tous les sens, et au bout d'un moment, on va dire, bon, ben, ça y est, maintenant, comment on s'organise? Et là, on est bloqué parce qu'en fait, on comprend plus rien. Et le temps de recomprendre ce qu'on a fait et de recréer du cadre autour de ce qu'on a fait qui n'est pas cadré, vous allez passer 1 à 2 années. Vraiment. Vous allez perdre 1 à 2 années à refaire ce cadre parce que tout ce qui aura déjà été fait, il faudra le rediscuter avec ceux qui l'ont fait parce que personne ne voudra lâcher son truc en disant « Ouais, mais moi, celui que j'ai fait, c'est le meilleur cadre. Mais moi, j'ai fait cette façon-là, il faut que je continue à le faire. Moi, j'ai fait des conteneurs avec EKS. Moi, j'ai fait des conteneurs avec ECS. Mais moi, et vous allez passer un temps fou, en fait, à renégocier chaque truc, à essayer de recréer un cadre sur un truc qui n'est pas un standard. Et vous ne recréez pas un standard d'un truc qui tourne déjà. Vous faites rentrer ce que vous voulez dans le standard. Donc vraiment, j'assiste avec toute la bienveillance que je peux, que ce soit avec ou sans l'aide de conseils externes, mais faites cette partie-là en premier, même si c'est pour des briques minimum, pensez au réseau, à certaines formes de stockage, les logs, même quelques briques fondamentales, mais vous allez voir le confort que c'est une fois que c'est fait, vraiment.
Ouais, absolument. Puis je vais rajouter aussi, si ça ne tient pas compte, là, on sauve le temps de rétro-ingénierie, mais s'il y a un incident entre les deux, le temps sauvé par le landing zone devient monumental si un incident se mêle à tout ça. Bref, ça conclut. Merci énormément. Je pense que ça donne justement une bonne vision d'ensemble de ce qui doit être fait. Puis si possible, suivez-le parce que sinon, vous allez avoir des sérieux pépins.
Tout à fait. Et puis sinon, vous nous embaucherez pour réparer, mais ça vous coûtera beaucoup plus cher.